Nous voulons d'abord nous incliner devant le Seigneur. Ô Dieu, tu connais le désir profond de nos cœurs, nous laisser enseigner par ta parole et par ta parole entendre la voix même de celui qui nous a dit « Recevez mes instructions, apprenez de moi ». Nous avons soif d'être enseignés par celui qui a quitté la gloire du ciel pour venir vivre ici-bas et nous apprendre ce que son Père désirait de la vie humaine. Nous savons que tu veux nous bénir. Nous savons que les besoins de chaque cœur ici peuvent être différents, mais que par ta parole, par ton esprit, tu peux répondre à ces besoins, quels qu'ils soient. Qu'il y ait vraiment une parole pour chacun de nous. Donne-nous d'être souples dans ta main et que nous puissions vivre vraiment une heure dans la dépendance de ton esprit pour que ne soient dites que les choses qui sont utiles, que les choses qui sont nécessaires pour la gloire du Père. Au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit auquel nous nous abandonnons totalement. Amen. Mes bien-aimés, nous demandons vraiment au Seigneur que nous ayons une heure toute remplie de sa présence. Ce thème, cri de l'âme et réponse de Dieu, j'ai tellement demandé au Seigneur qu'il puisse répondre à l'état de plusieurs parmi nous et que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. Et de cela nous sommes assurés. Nous ne voulons prêcher que la parole, non pas nous prêcher nous-mêmes, parce que nous avons besoin d'écouter premièrement que le Seigneur a à nous dire à nous, alors nous sommes assis avec vous pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Nous savons donc ce qu'est un cri. Nous savons ce que c'est qu'une âme. Nous savons aussi ce que c'est qu'une réponse. Nous avons examiné chacun de ces mots et une réponse de Dieu. Donc une réponse vraiment valable aux besoins de notre âme. Et hier, nous sommes occupés de ce premier cri. Où est Dieu? Ou, comme on l'entend souvent, où est ton Dieu? Et nous vous avons fait remarquer qu'au fond, ce livre que nous aimons, qui est la Bible, est vraiment un livre rempli de cris depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et qu'un jour il n'y aurait plus de cris. Et ce que nous avons essayé de souligner hier soir, c'est qu'au fond le premier cri qui a été poussé dans ce monde, dans cette création, c'est réellement Dieu qui l'a poussé. Où es-tu? Dit-il à Adam. Et je sais que cette parole a transpercé certains cœurs. Où es-tu? Où sommes-nous? Nous dit Dieu en cette journée du 1er juillet. Parce qu'il continue à nous parler. Ce n'est pas simplement la réunion d'hier. Aujourd'hui, le cri que nous entendons aussi souvent, c'est ce mot « pourquoi ?». Et on peut vraiment dire que dans ces 8 lettres se résume toute l'angoisse de notre cœur à certains moments. Mais pourquoi, Seigneur? On sait bien que Dieu n'est pas loin de nous. On a essayé de souligner hier. Et voyez, vous-même, on peut dire cela aux païens. C'est Paul qui, parlant à Athènes, soulignait cette chose, que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, même des païens. Dieu n'est pas loin des hommes. Nous ne sentons pas sa présence, mais Dieu est pourtant là, même il est proche des païens, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors combien plus du croyant? Parce que Jésus nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Donc, nous devons croire qu'il est là, même si nous ne le sentons pas. J'aime beaucoup le psaume 139 à cet égard. Il dit, même les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi. La nuit resplendit comme le jour. Peut-être que moi, je ne le vois pas, mais je sais que lui me voit. Et c'est ça qui nous suffit. Savoir que lui vous voit, que lui est proche, même si vous ne le sentez pas, même si vous n'éprouvez rien, croyez, c'est là qu'entre en jeu notre foi. Je crois que tu es là, Seigneur. Je ne te vois pas, je ne sens rien, mais je crois éperdument, et nous réalisons réellement sa présence. Il nous éprouve, mais pourtant, il est là. Oui, parce que c'est quelque chose de terrible que de vivre alors ce moment d'Israël où Dieu lui-même dit « Vous saurez ce que c'est qu'être privé de ma présence. » Oh, que cela ne vous arrive pas. Mais cela n'arrivera pas à un homme qui s'est réellement donné au Seigneur et qui a saisi que, au fond, le Seigneur l'a choisi. Nous aurons des moments d'épreuve, nous aurons des difficultés. Et quelqu'un me disait dans un entretien que est-ce que nous péchons quand nous avons des moments d'angoisse? Est-ce que nous péchons? Ben non! Les angoisses, le Seigneur lui-même les a eues. Nous sommes des êtres qui avons une nature faible et nous pouvons être angoissés. Il y a des moments d'angoisse. Nous pouvons avoir des inquiétudes, mais dans ces moments d'angoisse, d'inquiétude, nous rejetons tout cela sur le Seigneur. Et ce que j'ai dû apprendre, moi, c'est justement alors de traiter mes inquiétudes comme des péchés. Et je les confesse, Seigneur, voilà. Et je confesse, je me débarrasse de mes inquiétudes en les confessant. Je m'ouvre au Seigneur. Je me décharge sur lui de tous mes fardeaux, de tous mes soucis. Seigneur, je ne peux pas les porter. Alors, j'ai la délivrance. Déchargez-vous de vos soucis, de vos inquiétudes. Mais ne vous dites pas que ça ne devrait pas vous arriver d'être inquiet. Ça ne devrait pas vous arriver que si vous étiez un chrétien tellement spirituel, ça ne vous arriverait pas d'avoir un moment d'angoisse, parce qu'alors vous seriez plus fort que le Seigneur. Parce que le Seigneur, il était angoissé jusqu'à la mort. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il a eu un combat. Voyez-vous, Dieu est plus humain que nous. Quelqu'un m'a justement dit qu'on lui avait fait peut-être assez de tort en lui disant que lorsque elle passait par ces moments d'angoisse, eh bien que elle déshonorait le Seigneur. Vous déshonoriez le Seigneur si vous restez dans l'angoisse. Mais quand vous êtes dans l'angoisse, bien c'est parce que vous avez une limite humaine. Mais le Seigneur le sait aussi. Et il est dit qu'il se souvient de quoi nous sommes formés. Il se rappelle que nous sommes poussière. Dieu est plus humain que nous. Et nous devons faire attention, même quand nous voulons consoler quelqu'un, quand nous voulons aider quelqu'un. Hein, quelquefois, avec des versets bibliques, on lui fait du mal. Il faut faire très attention, même dans les citations bibliques que nous faisons, nous pouvons avoir l'air de chanter un chant a un cœur affligé, et il faut faire attention à cela. Ça fait la réaction, comme le dit l'Écriture, du vinaigre sur le nitre. Comme le vinaigre sur le nitre, tel est celui qui chante des chansons à un cœur affligé. Un verset biblique mal cité, ça fait l'effet contraire. Ça fait une réaction, et même une réaction contre le Seigneur. On a voulu les rapprocher du Seigneur, puis on leur donne une réaction. Alors, donc, nous savons que le Seigneur est près de nous. Mais voilà, tout en sachant ça, on se demande, alors, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pour quelle cause? Pour quel motif? Pour quelle raison? Et dans quelle intention? Et voyez-vous, la Bible est vraiment remplie de ces interrogations. Depuis les premières pages de la Genèse aux dernières de l'Apocalypse, nous trouvons des pourquoi. Et j'avais 14 ans, je pense, quand, étant malade dans une ville de Suisse à Lausanne, j'avais eu une permission de sortir de la clinique et je m'étais rendu au cimetière parce qu'un de mes amis qui avait la même maladie que moi était mort. Puis je voulais aller sur sa tombe. Puis quand je suis passé près d'une tombe d'un enfant, j'avais vu cette petite inscription. Pourquoi? Pourquoi? Je ne connaissais pas les parents, mais ça m'a parlé. C'était le jour de la Toussaint, sous ce ciel gris d'arrière-automne. Ce pourquoi, ça m'a marqué. Pourquoi? Pourquoi? Il me semblait que j'entendais ce cri dans toute l'humanité, tous ces gens qui passent par des épreuves, qui ne savent pas pourquoi, puis qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne savent pas les intentions du Seigneur, qui ne connaissent pas sa miséricorde. Je dis, mais Dieu, qui est-il pour qu'il m'envoie une épreuve pareille? Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est un cri de l'âme. Chez certains, c'est presque un rugissement, ce pourquoi. J'ai imité, enfin j'ai essayé de vous dire, plusieurs cris d'animaux, mais il y a des fois des cris qui montent de nos cœurs qui sont comme des cris d'animaux qui souffrent aussi. Et c'est pourquoi, eh bien, dans l'Ancien Testament, on en trouve une multitude. Dans quel livre, par exemple? Job, hein, le livre de Job est rempli de pourquoi. Job ne comprend pas, alors il dit pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis un autre livre, à côté de Job, qu'est-ce qu'il y a après? Les psaumes, le livre des psaumes. Eh bien, il y a une multitude de pourquoi dans les psaumes. Pourquoi? Parce que les psalmistes, il n'y avait pas que David, mais il y en avait d'autres aussi, c'était des hommes qui ont été affligés, et il y a des moments où ils ne comprenaient pas, alors ils criaient pourquoi? Ils étaient humains aussi. Ils croyaient en Dieu, ils savaient que Dieu existait. Peut-être qu'il y a des moments justement où ils ne réalisaient plus cette présence, cette proximité immédiate de Dieu. Où est Dieu? Mais quand même, ils savaient qu'il était là. Mais alors pourquoi? Puisque tu es là, pourquoi est-ce que tu permets ça? Le livre des psaumes. Et dans la vie de David, justement, qui est un des grands psalmistes d'Israël, vous trouvez plusieurs pourquoi. Puis quel livre? Un livre de prophète. Où vous trouvez beaucoup de pourquoi aussi? Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est un homme qui s'est posé des pourquoi. Hein. C'était des gens spirituels, David, Job, Jérémie. C'était pas parce qu'ils manquaient de foi, mais c'est justement parce qu'ils auraient voulu comprendre. Et nous aussi, on voudrait quelquefois comprendre. Alors c'est ce cri de l'âme vers le Seigneur. De l'homme qui est vraiment dans l'affliction. Jérémie, justement, il dit, je suis l'homme qui ai vu l'affliction, qui ai connu l'affliction, la verge de ta colère. Mais ce qui est remarquable aussi, je le souligne comme je l'ai souligné hier, c'est que les premiers pourquoi dans ce monde, qu'est-ce qui les a dit? C'est Dieu. Hein? Comme... le premier cri, c'est Dieu, où es-tu? Le premier pourquoi, c'est Dieu qui les a posés. À qui d'abord? Non, il n'a pas dit ça. Ça fait rien. Il y a où es-tu, Adam? Hein? c'est à la femme. Ah, Adam, il a dit, où es-tu? Il a la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Moi, je t'avais créé pour être une aide pour le brave Adam. Pourquoi as-tu fait cela? Le premier pourquoi, au fond, c'est Dieu qui l'a posé. À cause de quoi? À cause de la chute. Donc, vous voyez, Dieu, lui, a posé le premier pourquoi. Et puis après, à qui est-ce qu'il a demandé pourquoi? Il est tellement accablé, justement. C'est les premiers pourquoi que vous trouvez dans la vie, c'est Dieu qui les pose. Et à Caïn, justement, qui a un visage triste, qui est renfrogné, qui n'est pas content, bien Dieu s'occupe de Caïn. Moi, je trouve que c'est admirable, ça. Puis il va vers Caïn, qui n'est pas satisfait parce qu'il voit qu'Abel, lui, son sacrifice a été agréé par Dieu, puis le sien à lui, lui qui a transpiré, qui a fait tous ses efforts pour apporter ses belles offrandes, le fruit de son travail, le fruit de la terre à Dieu, voilà que lui, il sent très bien que Dieu ne l'a pas accepté. Alors Dieu s'occupe de lui, il n'aime pas nous voir tristes, même si on est Caïn, il n'aime pas que Caïn soit triste, il voudrait que Caïn soit aussi heureux. Moi, je trouve ça admirable. Il dit à Caïn.
Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu?
Oui, c'est ça. C'est, et voilà les pourquoi. Les premiers pourquoi, ce n'est pas l'homme qui les a posés, c'est Dieu. À Ève, pourquoi as-tu fait cela? Et puis, à Caïn, pourquoi es-tu abattu? Et puis, il lui donne le remède. Il lui dit, mais ça peut changer, toi aussi tu peux être agréé. Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Alors, il lui montre le chemin, n'est-ce pas? Voilà comment Dieu s'occupe des âmes. Vous savez, Dieu sera justifié de toutes les accusations qu'on aura pu porter contre lui. Quand les hommes seront devant Dieu, qui que ce soit aura la bouche fermée. C'est Dieu qui a raison, et vous devez le comprendre déjà maintenant. Alors, mettez bien ça dans votre cœur, Dieu a toujours raison. Pas parce qu'il veut avoir raison, mais parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu, et quand de mon côté j'ai l'impression que ça ne va pas, ben c'est pas Dieu qui a tort, hein, c'est moi. Alors, j'ai arrêté cela dans mon cœur, c'est jugé définitivement. Je ne mettrai plus jamais en cause l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu. Quelles que soient les épreuves qui puissent m'arriver, je sais que Dieu est bon. Je sais que Dieu est juste, je sais que Dieu est tendre, je sais que Dieu est amour, et je sais qu'il est tout puissant. Il m'éprouve, c'est vrai, mais il me fera sortir comme de l'or. Voilà ce que disait Job dans certains moments de son épreuve. Et cela, c'est des choses qui sont arrêtées dans nos cœurs. Et puis, voyez-vous, souvenez-vous toujours de cela, les premiers pourquoi, c'est Dieu qui les a posés. C'est Dieu qui les a posés, c'est pas ce qu'il voulait pour nous. Ce qu'il voulait pour nous, c'était le bonheur. Dieu est l'être bienheureux, et ce qu'il voulait, c'est que nous soyons des bienheureux. Il voulait que nous soyons en relation avec lui, et s'il est la source du bonheur, s'il est l'être bienheureux, si nous étions restés en relation avec lui, qu'est-ce que nous serions? Nous serions bienheureux. Et en effet, si nous sommes en relation avec lui, nous sommes des bienheureux. Mais maintenant, entre Dieu et l'homme, qu'est-ce qu'il faut pour être bienheureux? C'est lui seul qui peut nous relier à la source du bonheur. Sans Jésus, vous n'aurez pas le bonheur. Le monde vous prétend vous offrir le bonheur, mais le monde vous trompe, le monde est menteur. Le monde ne connaît pas le bonheur. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il n'y a que la convoitise. Et justement, c'est ce qu'il offre, le monde. Et il vous fait croire que, avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, que vous serez heureux. Et vous savez très bien que cela ne peut pas vous rendre heureux. C'est pourquoi Jésus disait, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est vrai. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors, allons à Jésus. Je vous signale juste cela, les premiers pourquoi, comme le premier cri, c'est Dieu. qui les a posées, d'abord à Ève, puis à Caïn, et puis vous pourriez continuer l'étude des pourquoi à travers l'Ancien Testament. Donc j'ai cité Job, du reste nous y reviendrons, Job, les psaumes et Jérémie en particulier. Puis alors dans le Nouveau Testament, ce serait aussi passionnant d'étudier dans les évangiles les pourquoi qu'on y trouve, les pourquoi de Jésus, c'est pourquoi qu'il adressait à ses disciples. Il y en a plusieurs de ces pourquoi. Et puis on pourrait aussi voir alors les pourquoi qu'il adressait au monde, parce qu'il a posé des questions au monde. Et j'étais frappé de ce que notre frère nous disait ce matin. Il a enseigné pas seulement ses disciples, mais il a enseigné les pharisiens, il a enseigné les sadducéens, il a enseigné le monde. Et il a posé des pourquoi aussi au monde, pas seulement à ses disciples. Puis on pourrait aussi voir les pourquoi que les disciples ont adressés à Jésus. Parce que les disciples ont posé plusieurs pourquoi à Jésus. Puis on arriverait dans l'Apocalypse où nous trouvons le dernier pourquoi. Et il est prononcé par qui? Il est prononcé par un ange. Le dernier pourquoi qu'on trouve dans la Bible, c'est un ange qui pose cette question à Jean, qui a cette révélation de tous les événements futurs, et en particulier de cette vision du chapitre 17, une femme assise sur une bête. Alors voilà notre Jean qui est étonné. Il comprend pas, puis il est vraiment saisi d'étonnement. Et l'ange lui dit, pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu? C'est le dernier pourquoi qu'on trouve dans la Bible. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère. Je te dirai le mystère. Donc vous voyez, il y a une réponse. Il y a certainement une réponse à tous nos pourquoi. Même quand on ne comprend pas quelque chose, hein, pourquoi t'étonnes-tu? Viens à moi, viens, j'ai la réponse. La parole sera la réponse. Il va nous donner une réponse. Je t'expliquerai. Oh mes amis, si vous avez des pourquoi, allez vers le Seigneur, puis attendez de lui ses réponses. Il peut déjà nous en donner plusieurs sur la terre. Puis, certains pourquoi, je les sais, je les connaîtrai là-haut. Mais je n'ai pas besoin d'attendre le parce que divin, hein, quand le Seigneur me dira, ben tu sais, le pourquoi que tu n'as pas compris, ben voilà, c'était parce que. Hein, et nous connaîtrons alors pleinement les buts de Dieu, les intentions de Dieu, le pourquoi nous devions passer par telle épreuve. Et quand nous saurons ça, mais qu'est-ce que nous ferons? Nous rendrons grâce. Donc, parce qu'on pourrait pas rendre grâce déjà sur la terre. C'est ça la foi. Si nous disons que nous avons la foi, on n'a pas besoin d'attendre la réponse. Nous voulons être des gens qui rendent grâce. Et voyez-vous ce que j'ai essayé de dire hier soir, malgré tout l'état d'âme dans lequel nous nous trouvions? Eh bien, ce que j'essayais de faire comprendre, quand on vous dit, au fond, où est votre Dieu, quand on voit tant de choses, où est-elle la bonté de Dieu? Qu'est-ce que vous devez dire? Elle est là, la bonté de Dieu. N'essayez pas de donner des explications philosophiques. Vous n'allez pas convaincre. Mais si vous pouvez répondre simplement, vous voulez une preuve de la bonté de Dieu? Ben voilà, je suis là. Je suis un objet de la bonté de Dieu, parce que si Dieu n'était pas bon, il y a longtemps que je serais plus que sous terre. Si Dieu ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit et son souffle, il a dit que toute chair expirerait ensemble. Ce serait le grand silence sur la terre. De sorte que si je suis encore là, c'est un effet de la bonté de Dieu. Nous sommes des monuments de la grâce de Dieu. Alors crions-le. Soyons toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque nous demande la raison de l'espérance qui est en nous. Mais quand on entend les incrédules qui viennent avec toutes sortes de raisonnements et nous dire, ben montrez-la la bonté de Dieu, montrez-moi l'amour de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez raisonner avec eux? Vous pouvez simplement dire, voilà, je suis là. On se moquera peut-être de vous, mais ça impressionnera beaucoup plus que vos raisonnements. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Moi, je suis sûr que c'est vrai, ça. Et cette nuit, le Seigneur m'a parlé là-dessus. Il m'a enseigné quelque chose. C'est ça. Il faut que tu puisses dire simplement, mais voilà. C'est comme Paul, quand il est devant Agrippa, puis qu'Agrippa, tout à coup, lui dit, tu vas bientôt me persuader de devenir quelqu'un. Il est impressionné, cet Agrippa, hein, devant le témoignage de Paul. Hein, il est vraiment impressionné. Malgré qu'il vit dans l'inceste avec sa sœur, là, qui est Bérénice. Hein. Eh bien, Paul, il dit, vous savez, plus à Dieu que ce soit pas seulement en toi, Agrippa, mais vous tous, qui êtes ici, que vous soyez comme moi. C'est formidable, ça. Seulement, je ne voudrais pas que vous soyez ces liens. Mais je voudrais que, pas seulement toi, Agrippa, mais tous ceux qui sont ici, vous soyez comme moi. Et sans ces liens, je ne vous souhaite pas la prison, mais je vous souhaite d'être comme moi. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Et voyez-vous, c'est ça le témoignage. N'essayez pas de vous dire, oh, si j'étais plus instruit, je pourrais convaincre, si je connaissais tous les arguments des philosophes croyants même, parce qu'il y a des philosophes croyants. Mais c'est pas cela. C'est d'avoir ce témoignage d'une relation intime avec Dieu qui vous fait dire Dieu est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Voilà l'histoire du jeune homme riche. Hein. Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Mais nous devons en témoigner. Nous devons témoigner de sa bonté. Même si nous sommes dans l'épreuve. C'est pas surhumain, c'est divin. C'est Dieu qui nous donne cela. C'est pas de nous. Hein. Ça vient pas de nous. C'est de lui. Alors, nous rendons témoignage. Les cris de l'âme. Mais il y a les réponses de Dieu. Où est-il le Dieu d'Élie? On l'a vu ce soir. Hein. Et je sais bien que les enfants vont s'en rappeler. Où est le Dieu d'Élie? Ben, il est là. Les eaux se sont fondues. C'est merveilleux. Et je ne pensais pas que ça se lirait si bien. Je n'avais pas même vu la correspondance. Vous voyez, et quand on veut aller ensemble dans l'enseignement de la parole, on voit qu'il y a une unité merveilleuse qui se crée. Des réunions du matin, des réunions du soir, même des réunions des enfants qui rentrent dans les réunions du soir. Des réunions d'adultes, adultes-enfants. On est tous des enfants, hein. Quelqu'un m'a écrit récemment... pendant combien faut-il d'années pour arriver à une certaine spiritualité? Combien faut-il d'années d'école? Hein? J'y ai répondu, je suis toujours à l'école. on est toujours à l'école, on n'a jamais fini d'apprendre les leçons. Et c'est tous les jours que le Seigneur nous enseigne. Puis des fois, il doit nous enseigner deux fois, hein? Trois fois. On redouble. Vous n'avez jamais redoublé vos classes? Des chances. Mais quelquefois, ça vaut la peine de redoubler. Hein. On comprend tellement mieux certaines choses. Que là, on s'en souvient, puis ça marque. Après, on dit au Seigneur, donne-moi une rapide. Appris deux fois. Donc, j'ai pas besoin de repasser par la troisième fois. Mais croyons-le, c'est tous les jours qu'il nous faut être avec le Seigneur. Donc, c'est pourquoi notre âme demande une réponse. Mais la réponse, elle est dans la parole. Mais évidemment, les pourquoi, ils sont innombrables. Non, mais je vous donne juste ces pistes de réflexion. La réponse de Dieu à nos pourquoi, eh bien, elle se trouve dans l'Écriture. Mais il faut connaître l'Écriture. Et c'est là que nous découvrons déjà plusieurs parce que. Je voudrais seulement... vous soulignez trois pourquoi ce soir. Ce pourquoi qu'on entend si souvent et que je trouve dans la Bible, c'est pourquoi est-ce que je suis né? C'est Chateaubriand qui disait ça. Hein? Je sais pourquoi je dois mourir, mais je ne sais pas pourquoi je suis né. Pourquoi on doit mourir? Peut-être qu'on le sait. Mais pourquoi est-ce que je suis né alors? Puis Voltaire disait, lui, on n'en finirait jamais avec les pourquoi. Les pourquoi, ils sont innombrables. Mais prenons-en seulement quelques-uns-là. Le premier, c'est celui qui se rapporte à notre naissance. Le second, c'est celui qui concerne notre mort. Pourquoi est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Puis, disons le troisième, peut-être, on s'arrêtera là, c'est celui qui a trait à la prospérité des méchants. Quand on voit certains méchants là, qui prospèrent, et nous, qu'on est fait des pieux, on passe par toutes espèces d'épreuves, alors on dit pourquoi? Alors, on va faire quelques lectures maintenant bibliques, parce que je veux que ce soit la parole qui vous reste. Alors, on prend d'abord dans Job, ce pourquoi de la naissance. Quand il est dans l'épreuve, Job au chapitre 3, et voyez-vous, les épreuves se sont succédées pour lui. Mais la plus grande, celle à laquelle il n'a pas pu résister, c'est la venue de ses amis. Quand ses amis qui étaient venus pour le consoler, quand Job a vu ses amis qui voulaient le consoler, qui étaient là, qui ne savaient pas lui dire, ça a débordé. Qu'on le regarde dans l'épreuve, qu'on ne trouve rien. Après, ils ont parlé, puis alors ils ont été des consolateurs fâcheux. Mais alors, Job au chapitre 3, je ne vais pas vous relire tout ce qui est dit de Job, vous connaissez ses épreuves, mais tout d'un coup, il s'écrie, verset 2, il prit la parole et il dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se lève et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année. » Il n'aurait plus sa fête, son anniversaire. Qu'elles disparaissent de l'année. Est-ce que vous aimeriez ça, vous? Qu'on ne fasse plus votre anniversaire. Qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Alors voilà les pourquoi. Vous voyez, son état d'âme. Il dit, alors c'est un cri maintenant. Pourquoi? Alors comment est-ce qu'il y en a? Pourquoi ne suis-je pas sorti mort du ventre de ma mère? Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Deuxième pourquoi, pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? C'est pas dit comme ça. Expirer au sortir de ses entrailles. On pourrait dire expire, fini. C'est ce qu'il est. Expirer au sortir des entrailles. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Pourquoi je suis pas tombé par terre? Elle me dit, mais vous voyez juste que ça peut aller dans des moments où on est tellement dans l'épreuve, on n'en peut plus. Et il arrive à dire ça. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des genoux pour me recevoir? Sans ça, je serais tombé sur le sol, même si c'est pas haut. Ça aurait été fini. Au cimetière. Non? Voyez-les pourquoi? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois, les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplissent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Puis vous pouvez continuer. Mais le verset 20, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent envers la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture. Puis vous pouvez continuer. Donc, vous voyez, il y a des hommes qui ont connu l'affliction, hein, et qui se sont demandé pourquoi ils étaient nés. Maintenant, prenez les pourquoi de Jérémie. Ben, c'est la même chose. Jérémie, chapitre 20. Voilà un autre homme, alors qui est tout différent. Ce serait passionnant de connaître un peu mieux Jérémie. C'est un homme extraordinaire dans les voies de Dieu. Mais vous voyez les moments qu'il a. Je lis au chapitre 20 du prophète Jérémie, le verset 18e, à partir du verset 18e, oui. Pourquoi, je ne vais pas tout lire, hein, il a maudit son jour aussi depuis le verset 14, hein. Maudit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni, maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qu'il combla de joie. Parce que avoir un enfant mâle, pour les Israélites, c'était la joie parfaite. Eh bien, maudit soit ce jour-là. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, et qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que m'a-t-on fait mourir dans le sein maternel? C'est quoi ça? C'est l'avortement, et il va jusque-là, hein, dans sa détresse. Que m'a-t-elle servi de tombeau? Une mère cimetière. Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Ouais. Que, ça, c'est bien un homme. Hein. Il faut qu'on soit des hommes pour trouver des trucs pareils. Mais oui, mais Jérémie aussi était un homme. Que ma mère soit restée éternellement enceinte. Éternellement enceinte. Vous voyez ça? Éternellement enceinte. Il faut être vraiment un homme pour dire un truc. Vous voyez, la parole, elle nous remet à notre place. Pourquoi? Alors voilà le verset 18 hein, qui résume tout. Mais c'est toujours ce pourquoi. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans ta honte? Parce qu'il a passé par des moments terribles. Alors voilà le pourquoi de notre naissance. Alors, prenons ce premier pourquoi. Quelle est la réponse de Dieu à ce pourquoi que pose un Job, que pose un Jérémie, pourquoi de la naissance? Qu'est-ce que la parole de Dieu vous répond? Pourquoi est-ce que vous êtes né? Parce que j'ai eu un père et une mère qui ont fait l'amour. Puis voilà. Hein. Puis j'ai tombé sur la période où mes parents, voilà. Ils ne me voulaient peut-être pas, mais... C'est ça? Pourquoi est-ce que vous êtes né? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez une réponse? Parce que Dieu le voulait! Mais il y a des paroles qui sont claires et qui doivent vous saisir. Je vous les cite seulement. Les réponses de Dieu, hein, à ces pourquoi. Parce que Dieu l'a voulu. Ésaïe, chapitre 66. Et ça, vous savez, je l'ai vécu une fois. Pour ma petite grâce. Hein. Nous l'avons appelée Marie-Lise, grâce, je sais pourquoi. Alors, parce que Dieu l'a voulu. Ésaïe 66, verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fait naître. Empêcherais-je d'enfanter, dit-on Dieu ? Ça vous suffit pas, ça ? Moi qui fais naître. Donc, si vous êtes là, c'est que Dieu l'a voulu. Dieu prend la responsabilité de votre naissance. Parce qu'il prend toutes les responsabilités, Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il est le créateur. Et quand il a créé l'homme, son ordre était pour le premier coup, croissez et multipliez. Donc c'est quelque chose de divin. Il n'y a rien, il n'y a pas de péché dans la relation sexuelle quand elle est faite dans le plan de Dieu. Il est le créateur et c'est lui qui donne la vie. Vous auriez d'autres versets qui correspondent, je pense à Deutéronome chapitre 32 en particulier, je vous le cite. Si Ésaïe 66 ne vous suffit pas, prenez au début de l'écriture, dans Deutéronome, donc la première partie, les livres de Moïse, qui sont la première partie de la Bible, c'est le cinquième livre, chapitre 32, verset 39e. Qu'est-ce que nous lisons ? Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Je fais vivre. Et je fais mourir. Prenez maintenant un peu plus loin Anne dans sa prière au livre de Samuel, premier livre de Samuel. Elle qui était stérile et qui est venue dans les pleurs, dans les larmes, supplier Dieu de lui donner un enfant, puis qui n'a pas été comprise par un sacrificateur, puis l'a prise pour une femme ivre. Quel discernement, cette vieille Élie. Quand est-ce que tu auras fini de cuver ton vin ? Je cuve pas mon vin, je pleure. Elle avait de la détresse dans l'âme, il comprend pas. Cette vieille Élie ne comprend rien. Il comprenait que ses enfants, ses fils. Ouais. Mais la femme dans la détresse, il ne la comprenait pas. Nous verrons dans les histoires des enfants, Élisée, lui, il a une toute autre compréhension d'une femme qui est dans la détresse. Alors que son Géasi, lui, il ne comprend rien. Il veut repousser aussi cette femme. Quand on n'est pas dans le Seigneur, vraiment, vous savez, on ne comprend pas les âmes. Mais quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur, il est tendre. Il est compatissant. Il ne juge pas d'abord. Il ne voit pas d'abord du mal. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet âme ? Qu'est-ce qu'il y a comme souffrance ? Et ça rejoint ce que mon frère disait au sujet des gens qui viennent dans les assemblées. Hein. Mais ils sont comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça ? Discerner la souffrance qu'il y a peut-être dans cette vie-là. Le problème de cette personne, alors vous l'aimerez. Malgré qu'au premier abord, peut-être, certaines choses ne vous sont pas sympathiques. Puis, vous, au lieu de ça, vous dites, mais Seigneur, toi tu l'aimes, c'est une de tes créatures. Si elle est là, c'est que tu l'as voulu aussi. Alors ça vous change complètement vos relations. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se fait. Bien oui, alors cette Anne, dans sa prière d'action de grâce, parce qu'elle a remercié le Seigneur, hein, au verset 6, elle dit, l'Éternel, chapitre 2, fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. C'est une merveilleuse prière dont s'est inspirée certainement Marie. Dans son Magnificat, il y a des choses qu'elle sort de la prière d'Anne. Parce que ces femmes, eh bien, elles connaissaient les paroles, les cantiques, les prières d'autres femmes. Maintenant, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, mais moi je ne connais pas mon père et ma mère. Alors pourquoi est-ce que je suis là? J'ai pas de raison d'être. Ce n'est pas mon père et ma mère. J'ai entendu ça l'autre jour à Paris. J'étais dans une grande église catholique, en face de l'hôtel de ville, et une chère sœur que j'aime beaucoup, qui est une sœur diaconesse de Reuilly, elle rendait son témoignage dans cette église catholique qui était bondée, les gens étaient assis par terre. Et ils entendaient ce témoignage de croyants évangéliques qui racontaient leur baptême. C'était tous des catholiques, mais qui avaient passé par la conversion et qui venaient témoigner dans cette église qui était bondée, et il y avait des prêtres qui étaient là. Et elle disait, bien moi ma vie, c'est le psaume 27, verset 10. J'aurais pleuré. C'est le psaume 27, verset 10. Je savais tout de suite ce que c'était. C'est quoi? Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, le Seigneur me recueillera. Elle dit, voilà ma vie. Moi, je n'ai pas connu mon père. Ma mère, elle m'a abandonné quand j'avais 2 ans. J'ai été élevé dans des foyers nourriciers d'une classe à l'autre. Et je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Mais j'avais soif de Dieu. Puis elle a raconté comment à 27 ans seulement, elle est entrée dans les eaux du baptême, dans une rivière que je connais bien. Puis elle nous a chanté un cantique. Elle avait sa guitare. Puis elle a dit, est-ce que vous permettez que je chante le cantique que j'ai composé le jour de mon baptême? Et c'était beau, vous savez. C'était à pleurer. Cette vie qui ne connaissait ni père ni mère, puis que le Seigneur avait trouvé. Et qui disait, eh bien moi, ma vie se résume avec le psaume 27, verset 10. Qu'est-ce que c'est le psaume 27, verset 10? Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, le Seigneur me recueillera. Je vous promets que ça avait de la puissance. Plus que des grands sermons des plus grands prédicateurs. D'entendre cette jeune femme qui disait ça dans une humilité, dans une simplicité, et qui chantait pas un air de rock, hein, mais c'était d'une douceur, c'était beau. Vous direz que je suis insensible. C'était le dernier jour que j'étais à Paris. Mais je me souviens de ça. J'étais édifié. Et j'ai donné gloire au Seigneur. J'ai loué le Seigneur avec ceux qui étaient avec moi. Parce qu'on se disait, on était en prière là, quand on disait, tout ce monde qui entend ça, il ne peut pas ne pas être touché. Et en effet, on a entendu des choses extraordinaires. Quand même, il y a des choses qui changent. Quand le prêtre s'est levé et qu'il a commencé à dire, bien oui, c'est vrai. Nous comprenons que le baptême maintenant, ça doit être autre chose que ce que nous avons fait. De sorte que vous savez que maintenant en France, nous avons 3 liturgies pour le baptême. On n'oblige plus les parents à baptiser leurs enfants. Voilà, parfois nous en sommes arrivés. Des parents qui nous disent, je ne veux pas baptiser mon enfant parce que je ne veux pas lui mettre une étiquette. Je veux que lui-même, à l'âge de responsabilité, il puisse choisir. Alors, nous faisons ce que nous appelons, et c'est le prêtre lui-même qui disait ça devant l'église pleine, nous faisons une certaine liturgie de présentation. Donc vous voyez, c'est quand même assez drôle. Nous présentons l'enfant devant l'église, et puis ensuite, quand l'enfant sera à l'âge de compréhension, eh bien, s'il le veut, il sera baptisé ou par aspersion, ou par immersion. Parce que, disait-il, le vrai baptême, c'était une immersion. Alors, s'il le veut, nous baptisons par immersion. Voilà, ça c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est pour celui qui n'a jamais été baptisé, le baptême des adultes. Alors, il le reconnaissait, nous baptisons par immersion. Et puis, alors, le troisième baptême, c'est le baptême habituel, mais qui n'est pas l'effacement de la tâche originelle, mais qui est le signe de notre identification au Christ dans sa mort et sa résurrection. Mais c'est en quelque sorte un baptême prophétique. Vous savez, il y a des choses qui sont assez bouleversantes. Et j'ai un cher ami depuis des années, c'est John Stott, un Anglais que vous avez certainement peut-être connu même, et qui a fait l'autre jour un baptême d'enfant à Westminster, je crois, en Angleterre, et j'avais un ami qui y était, qui se disait, mais comment est-ce qu'il va s'y prendre, lui, qui est pourtant très évangélique. Et il a fait un baptême prophétique. Alors on lui a demandé, mais quelle liturgie est-ce que vous avez employée? Il a dit, oh, c'est une liturgie à moi. C'est très drôle, c'est un anglican. Mais Dieu travaille. C'est simplement pour vous montrer, n'est-ce pas, ne soyons pas des fanatiques au sujet du baptême hein, et de la manière de baptiser. Mais soyons de ceux qui désirent que le sens profond du baptême soit vraiment compris et que nous vivions notre baptême tous les jours de notre vie. Et c'est ça qui compte. Hein. Je suis mort avec le Seigneur. Mais c'est tous les jours que nous vivons cette mort pour que la vie de Jésus puisse se manifester, oui. Pourquoi est-ce que je vis? Bien, Dieu l'a voulu. Et puis, même si on connaît ni père ni mère, bien, allez au Seigneur. J'ai employé souvent dans mon ministère pendant toutes ces années ce verset avec des gens justement qui, et c'est ça qui m'a frappé l'autre jour quand j'ai réentendu la chose par une autre voix, ça nous renouvelle. On se dit, bien, le Seigneur me conduisait d'une façon juste, puisque cette fille maintenant peut dire que réellement c'est sa vie, le psaume 27. J'ai dit à plusieurs personnes qui étaient révoltées, moi j'ai pas connu mon père et ma mère, va à Dieu. Va à Dieu. Si tu vis, c'est que Dieu l'a voulu. Et il y a une raison. Demande-lui la raison de ta vie. Et une fois qu'on a trouvé la raison de sa vie, parce que Dieu sait la révéler, hein, on est réconcilié. Peu importe qu'on connaisse pas papa et maman. C'est une grâce si on a connu papa et maman. Hein. Mais si on ne les avait pas connus, si on connaît le Seigneur, si on connaît notre Père des cieux, ce Père au cœur de mère, nous voilà réconciliés avec bien des choses. Et Ésaïe 49 encore, pour vous citer un autre verset que j'aime beaucoup, 14 à 16, quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, le Seigneur me recueillera, ça c'est le psaume 27, mais ici, une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de ses entrailles? Même celles-là oublieront, ça peut arriver. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Pourquoi est-ce que tu dis, Seigneur, ne va pas t'oublier? Il te le dit. Il dit, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. C'est tellement vrai. Hein? Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Le Seigneur a des blessures à ses mains. Et il était blessé pour qui? Pour moi, pour nous. Hein? Alors, donc, si vous ne savez pas, si vous avez un doute maintenant, mais pourquoi est-ce que je vis comme Job? Parce que pour finir, Job, il a loué le Seigneur aussi. Mais il a eu ces moments, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir ces moments tragiques, mais dans ces moments-là où on crie vers Dieu, il y a les réponses qui nous sont données. Et je lirai aussi dans Jérémie, au chapitre 1er, un verset que vous pouvez mettre en parallèle avec ce qui est dit de Paul dans le chapitre 9 des Actes, Saul de Tarse. Mais prenez maintenant Jérémie 1, ce que Dieu dit à Jérémie quand Jérémie dit qu'il est appelé par le Seigneur, mais il dit qu'il est trop jeune, qu'il n'est qu'un enfant. Et le Seigneur lui dit, au verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Ce mot, ça fait formidable, vous ne trouvez pas? C'est dans l'éternité que vous existiez dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas simplement parce qu'un couple s'est mis ensemble. Oui, il y a eu cela. Mais avant qu'il y ait cela, avant le mariage, avant cette relation sexuelle qui a eu un fruit, ce fruit de l'amour, l'enfant, eh bien Dieu dit, je te connaissais avant ça. C'est pas que je sais que tu es né, parce que ça peut se faire souvent, sans qu'il y ait un enfant. Mais s'il y a l'enfant, c'est que moi, c'est voulu. Il n'a pas toujours voulu que la chose se fasse de la manière dont elle se fait aujourd'hui, mais il prend toutes les responsabilités. Moi, je trouve ça c'est fantastique. Je vous ai déjà raconté, je crois, ici à Mahanaïm, au cours de ces 15 années, de ces cas, une femme qui me dit, mais moi, j'ai eu 3 enfants, ils sont sourds-muets, les 3. Le premier, ils étaient sourds-muets. C'était des gens très pieux, je les connaissais bien, nous étions amis. Premier enfant, à leur mariage, il est sourds-muets. Alors, évidemment, ils sont dans la détresse, ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils prient, ce sont des enfants de Dieu vivants qui ont un témoignage dans une assemblée du Jura suisse. Puis alors, on l'a examiné dans tous les hôpitaux, à Berne, partout, on a fait des enquêtes, et on leur a dit, écoutez, consolez-vous, ça ça ne vient pas ni de vous, ni de madame, et nous ne comprenons pas, ayez encore un enfant. Alors voilà, ils sont un peu consolés, ils aiment cet enfant, sont muets, mais ils ont un second enfant, sont muets. Alors évidemment, c'est l'entourage qui est difficile à supporter. Vous avez déjà un enfant sourd muet, puis vous permettez encore d'avoir un autre enfant. Et non seulement ils ont eu un autre enfant, ils étaient jeunes, ils en ont eu un troisième, sourd muet. Alors elle m'a dit, Gaston, essaye un jour, je n'en pouvais plus. Pas seulement de mes épreuves, mes trois enfants sourd muets, mais de ce que j'entendais dire par mes frères et sœurs très chrétiens. Très chrétien, qui ne prendrait pas la scène avec n'importe qui. Ah non. Yann. Ah non. Attention. Puis voilà qu'ils ont un quatrième enfant qui n'est pas trouvé. Mais avant qu'elle ait le quatrième enfant, elle s'était jetée à Jean. Elle m'a raconté. J'ai dit au Seigneur, écoute, tu sais que je ne fais pas ça par amitié, mais j'ai dit, je n'en veux plus, il n'y a pas de frère qui vienne me consoler. Alors toi, puisque n'est pas parole, je te demande de me... Elle m'a dit, tu sais, c'est ouvert tout seul, j'ai pas cherché. C'était comme si le verset était comme des lettres de feu. Je l'ai eu ça quelquefois aussi. Moïse dit à l'Éternel, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Ça, je vous le lis. Mais elle, c'est le verset 11 qui sortait comme ça, quand elle ouvre sa Bible. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Vous ne trouvez pas que c'est beau ça? Mais je vous cite là des choses vécues. Quand on dit cri de l'âme, bien, elle hurlait cette femme. Hein. Je ne sais pas si c'est comme un loup. On a dit que le loup hurle, hein, mais elle hurlait. Mais le Seigneur lui a répondu avec tendresse, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Puis l'enfant suivant, parfait. Puis vous savez, ces trois sourds muets, ils ont été élevés, ils sont dignes, ils ont une belle situation en Suisse. C'est quelque chose de magnifique, et c'est une belle famille, ils sont tous au Seigneur. Alors, voilà un témoignage. Et puis ils parlent de la bonté de Dieu. Mais ils ont passé par l'épreuve. Nous ne pouvons pas éviter l'épreuve. Mais assez pourquoi, eh bien, Dieu répond... responsable. Je ne voudrais pas que c'est accepté cela de la main du Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette infirmité. Mais enfin, si tu peux te glorifier dans mon infirmité, c'est justement ce qu'il dit à Paul. Je me glorifie dans ton infirmité. Alors, je n'ai pas besoin d'en savoir davantage. La question pour nous, au sujet de notre naissance, c'est de servir au dessein de Dieu. C'est Actes chapitre 13. Jean-Baptiste, il a servi au dessein de Dieu. Puis après, il meurt. Il avait achevé sa course à 30 ans. Il n'avait pas besoin de vivre plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'il est mort à 30 ans? On dit, mais il n'avait pas achevé sa course. Oui, il avait achevé sa course. Comme Jean achevait sa course. Pourquoi quand un jeune meurt, on dit, il n'avait pas achevé sa course? On n'y a rien compris. C'est justement qu'il avait achevé sa course. Tandis que David... il est mort après avoir servi au conseil de Dieu. Il est mort à 70 ans, dit David. C'était pas très vieux, mais avec toutes les épreuves qu'il avait eues dans le désert, il est mort quand même à 70 ans. Alors, deuxième pourquoi, c'est pourquoi faut-il mourir? Alors, ça, vous le savez, hein, le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce qu'il y a après le salaire du péché? Le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 21. Pourquoi faut-il mourir? Eh bien, nous le savons. C'est à cause du péché. Hein? Alors, pourquoi le deuil? Pourquoi des enfants nous sont repris? Bien, souvent, ils sont recueillis devant le mal. Mais je m'en vais m'arrêter et simplement vous dire que nous devons être délivrés de la crainte de la mort.
quand on est en Jésus? Pourquoi est-ce qu'on craint la mort, au fond? Parce qu'après la mort, on sait bien que suit le jugement. Et puis pourquoi est-ce qu'on craint le jugement? Parce que malgré qu'on dise qu'on a fait ni, on n'a fait tort à personne, on sait très bien qu'on est des pécheurs. Alors pourquoi est-ce qu'on craint la mort, au fond? À cause du péché. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit liquidé? Nos péchés. Jésus est venu. Il a pris nos péchés sur lui. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Jésus est mort. Jésus a eu, il a pris l'aiguillon de la mort. Il a subi la condamnation, il a subi le jugement à notre place. Il est mort à cause de nos péchés. De sorte que maintenant nous sommes délivrés de l'aiguillon de la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, ta victoire. Nous savons que Jésus est ressuscité. Il nous a frayé un chemin à travers la mort, de sorte que mourir pour nous maintenant, ce n'est plus une catastrophe, c'est plus aller dans le tombeau, c'est aller vers le Seigneur. Et l'apôtre Paul le conçoit de cette manière, il dit, mais aller auprès du Seigneur, cela est de beaucoup meilleur. C'est meilleur que la vie terrestre. Mais si je dois vivre, il en vaut la peine. Nous ne voulons pas être de ceux qui fuient. Nous voulons faire face. Mais en même temps, nous voulons être prêts. Et nous voulons dire, comme Paul, au chapitre 1er des Philippiens, verset 20, « Je suis assuré que le Seigneur sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. » De sorte que nous rejoignons l'apôtre Pierre, et c'est des enseignements des matins, dans le chapitre 21 de Jean, le Seigneur lui indique de quelle manière il le glorifierait par sa mort. Donc, on ne doit pas avoir n'importe quelle mort. Mais nous devons demander à Dieu qu'il nous donne une mort, si on doit mourir, qu'il glorifie son nom. Alors, soyons aussi vigilants là-dessus. Car, il est dit encore Romains 15, ça c'est les réponses de Dieu, hein, Romains 14, verset 8, « Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Alors nous devons vivre pour lui plaire. Et notre mort, notre départ, doit être comme le sceau posé sur notre témoignage. Parce que c'est le dernier mot, là, à la mort. Et bien que la mort puisse nous trouver dans le chemin du Seigneur. Pourquoi faut-il mourir? Nous le savons, à cause du péché. Mais Dieu a pris la responsabilité du péché, c'est lui qui a tout réparé. Comme il prend la responsabilité de toutes nos infirmités, alors on ne peut pas en vouloir à Dieu. On est réconcilié avec lui. On s'accepte comme on est. Et voyez-vous, c'est une grande délivrance. Pouvoir s'accepter, puis après, on s'abandonne entre ses mains. Et alors, le troisième pourquoi, qui est évidemment ce pourquoi que l'on trouve si souvent dans Jérémie et dans Job aussi, et dans les psaumes, pourquoi la voix des méchants est-elle